Vous écoutez, on lit pour vous.
Les femmes font moins de sport que les hommes. Pourquoi? Un texte de Chloé Machillo, paru le 3 mai 2023 dans le magazine Châtelaine. Au Québec comme au Canada, les femmes font jusqu'à 2 fois moins de sport que les hommes, quel que soit leur groupe d'âge. Cette différence, observable dès la petite enfance, a des effets négatifs sur leur santé physique et mentale, sur leur confiance en soi et sur leur vie sociale. Une récente étude du Conseil du statut de la femme met en lumière la persistance de stéréotypes et de violences sexistes dans les milieux sportifs. Cet état de fait décourage les athlètes féminines de poursuivre la pratique dans diverses disciplines. L'inégalité dans l'attribution de ressources financières leur limite aussi l'accès à des niveaux d'élite. Le peu d'enthousiasme et de soutien pour les sportives est une tendance observable dans tout l'Occident. Les médias, par exemple, ne leur donnent pas autant de place ou précisent « féminin » quand ils parlent d'un sport, alors qu'ils ne disent jamais « soccer masculin ». Note Mélanie Julien, directrice de la recherche et de l'analyse du Conseil du statut de la femme. Cette recherche souligne également que les femmes représentent à peine le quart des entraîneurs et pas même le tiers des membres des conseils d'administration de différentes associations sportives. On doit réunir plus de femmes autour des tables de décision pour défendre leurs enjeux et permettre aux plus jeunes d'avoir des modèles auxquels s'identifier, tranche Guylaine Demers, directrice du laboratoire de recherche pour la progression des femmes dans les sports au Québec de l'Université Laval. Ce laboratoire, créé au printemps 2022, est financé par le gouvernement du Québec, ce qui témoigne, selon elle, d'une volonté politique de faire bouger les choses. « Je n'ai jamais été aussi optimiste depuis le début de ma carrière », dit-elle. « Si on continue à faire évoluer les mentalités, je crois qu'on verra déjà un changement concret dans 5 ans. » C'était « Les femmes font moins de sport que les hommes. Pourquoi ?» un texte de Chloé Machillo, paru le 3 mai 2023 dans le magazine Châtelaine.
Le jardin nourricier d'hier à aujourd'hui, par Marika Deschambault, dans 4 temps, printemps 2023. Cultiver son lopin de terre en pleine ville n'est pas récent. Au Jardin botanique de Montréal, la volonté de présenter des végétaux comestibles et utiles est inscrite dans la genèse même du site. Au 2e étage de la bibliothèque du Jardin botanique dorment des étagères remplies d'archives. 3 précieux boîtiers contiennent les plus anciens documents concernant celui qu'on nommait alors le jardin économique, des listes de plantes et des rapports datant des années 1930. En feuilletant les pages jaunies en compagnie d'Isabelle Paquin, horticultrice du jardin nourricier actuel, je découvre que si le nom a changé, l'essence de ce jardin est restée la même depuis près de 90 ans. Un pas en arrière. En 1932, la mise en œuvre de travaux publics d'envergure pour contrer la crise économique permet de débloquer les fonds nécessaires à la fondation du jardin botanique. Dès lors, le frère Marie-Victorin part en quête d'un architecte paysagiste et rencontre Henry Turcher à New York. S'ensuit une correspondance passionnée entre les deux hommes. Au cœur de leur discussion, le jardin botanique idéal. Grâce à la détermination ambitieuse de Marie-Victorin et à la vision avant-gardiste de Turcher, le projet voit le jour avec une première pelletée de terre en 1936. Pour effectuer les travaux, on recrute quelques 2000 paires de bras grâce au programme d'aide au chômage mis en place sous la gouverne du premier ministre Duplessis et du maire Camillien Houd. Le jardin économique est un jardin de démonstration des plantes comestibles et utiles à l'humain. C'est l'un des premiers jardins aménagés le long du boulevard Pie-Neuf. Il obtient un succès populaire instantané. Jusqu'à 15 000 personnes parcourent les sentiers certains dimanches, découvrant au passage 490 cultivars de plantes. En 2023, la volonté initiale de présenter au grand public cette diversité alimentaire perdure et s'intensifie, car 1320 variétés ont été cultivées par Isabelle Paquin et son équipe, soit près de 3 fois plus qu'à l'époque. Les plantes, nos frères et sœurs sous le soleil. Lorsque Isabelle Paquin partage ses connaissances et ses expériences, je sens la même ferveur qui se dessine entre les lignes des vieux rapports d'archives. Une passion qui a voyagé à travers le temps depuis Turcher. Ce qui animait l'architecte paysagiste à l'époque de l'écriture de son mémoire, programme d'un jardin botanique idéal, est toujours vivant dans les aspirations et orientations du jardin nourricier actuel. Toute vie humaine ou animale sur le globe terrestre dépend directement ou indirectement de la vie végétale. Cela nous permet d'apprendre que les plantes et les animaux ne sont ni des adversaires à mater, ni des instruments créés pour notre seul usage, mais qu'ils font partie, comme nous, de la nature, qu'ils sont, en somme, nos frères et nos sœurs sous le soleil. À travers le temps, le jardin économique devient le jardin des plantes économiques, puis le jardin des plantes utiles, pour finalement être rebaptisé jardin nourricier en 2020. Sa structure reste pratiquement inchangée. On y arpente les mêmes sentiers où sont disposées les plates-bandes d'origine. Les plantes sont toujours présentées en fonction de la partie végétale consommée. Fruits, feuilles, tiges et pétioles, racines, etc. Ou de leur utilité. Teinture, textile, arôme, etc. À partir des années 1990, l'horticultrice Nathalie Leuenberger introduit un potager culturel composé de plantes originaires d'Asie. En 2012, Isabelle Paquin poursuit l'élan en ajoutant des sections dédiées aux plantes nourricières d'Amérique latine, d'Afrique et d'Europe de l'Est. Une bibliothèque vivante de variétés ancestrales. En scrutant les listes de plantes d'autrefois, on repère le nom de nombreuses variétés que l'équipe horticole cultive toujours, dont certains légumes impopulaires, car on doit travailler fort pour les consommer. C'est le cas du chervis, un légume dont l'aspect rappelle un panais ou un salsifis un peu tordu, ce qui le rend difficile à râper. On fait encore pousser ces légumes anciens parce que le jardin nourricier est en quelque sorte une bibliothèque vivante de l'histoire des légumes. Ce qui est surprenant, c'est que tous les légumes rares et bizarres que les gens redécouvrent aujourd'hui, comme l'épinard de Malabar, la tétragone ou l'oca du Pérou, étaient déjà cultivés en 1936, s'étonne Isabelle Paquin. La quantité de détails trouvés dans les rapports est remarquable. Des techniques de semis précises, des notes sur le rendement, sur le goût ou sur les préférences des horticulteurs. Ce sont des nuances et des connaissances qui peuvent se perdre, des éléments cruciaux à conserver, confie l'horticultrice. Hier comme aujourd'hui, la deuxième vie des légumes du jardin nourricier débute à la récolte. Le fruit du labeur de l'équipe du jardin nourricier est remis à des organismes communautaires à but non lucratif locaux pour fin de redistribution ou de transformation. Comme quoi l'importance de donner au suivant se cultive aussi dans ce jardin depuis sa création. C'était le jardin nourricier d'hier à aujourd'hui par Marika Deschambault, paru dans 4 temps, printemps 2023.
SOPK, l'acronyme qui fait mal aux femmes, la chronique de Daphné B. Une chronique de Daphné B. parue le 24 mai 2023 dans le magazine Châtelaine. À l'instar d'environ une personne de sexe féminin sur 10, je suis atteinte du syndrome des ovaires polykystiques, SOPK. Maladie longtemps sous-diagnostiquée et encore méconnue, malgré sa forte prévalence. Si on parle très peu du SOPK, c'est peut-être parce qu'il ne touche que les femmes cis ou les personnes qui ont un utérus. Et parce que la médecine a historiquement privilégié la santé des hommes. Personnellement, on ne m'en a jamais appris l'existence, même s'il est considéré comme la première cause d'infertilité chez la femme, qu'il augmente les risques de souffrir de troubles cardiovasculaires, de cancer de l'endomètre ou de diabète. Quand mes premiers symptômes sont apparus, je n'ai donc pas su les reconnaître. Tout a commencé par des saignements. « Pas grave, c'est normal », m'a-t-on répondu lorsque j'ai exprimé mon inquiétude au médecin. Or, j'éprouvais aussi une anxiété débilitante, surgie de nulle part. Je l'ai mise sur le compte de mes études, du livre que j'allais publier, de la vie. Sauf que je n'arrivais plus à dormir. À un point tel que j'ai demandé qu'on me prescrive des antidépresseurs. J'ai donc renoué avec le citalopram, la drogue de ma jeunesse. Je remarquais aussi de nouveaux poils, drus et noirs, sur mon visage, mes fesses, mon ventre et l'aréole de mes seins. Je suis devenu maniaque de la pince à épiler. Mes amis se foutaient un peu de ma gueule, certains insinuant qu'il fallait que j'apprenne à m'aimer telle qu'elle. Alors que j'étais convaincu que quelque chose ne tournait pas rond, je me suis mis à douter de moi. À mon tour, je me suis détourné de mon corps. Au bout de 3 ans d'errance médicale, c'est dans une clinique sans rendez-vous à Montréal que j'ai par hasard appris que j'avais le SOPK. C'est écrit dans ton dossier, m'a balancé le médecin que je consultais pour une infection urinaire. Même s'il a été répertorié en 1935, on ne sait toujours pas exactement ce qui cause ce syndrome. Par conséquent, on ne peut pas le traiter. On ne fait que s'attaquer à certains de ces symptômes. Or, si cette maladie touchait autant d'hommes que de femmes, nos connaissances seraient-elles aussi déficientes? En général, une prise en charge sérieuse n'est évoquée que dans la mesure où la patiente souhaite tomber enceinte, comme si le seul enjeu réel n'était que de cet ordre. Mais qu'en est-il des risques de cancer? De la prévalence de l'insulino-résistance? Dans le bureau du médecin, on ne m'en souffle mot. On dirait que mon corps n'a de valeur que s'il veut enfanter. Pour faire cesser mes saignements, on me recommande la pilule. Je capitule et gagne le gros lot. Menstruation pendant 2 mois. Excédé, je me tourne vers Instagram pour ventiler. Des tas de femmes se confient à moi. Elles aussi ont le SOPK. Elles aussi ont erré. Se sont butées à des médecins incompréhensifs, pas assez outillés. Tour à tour, elles me font part de leurs épopées, mais aussi de leurs pistes de solutions. Médecine douce, suppléments, alimentation, etc. Si l'image des femmes qui googlent compulsivement leurs symptômes est devenue un cliché, c'est peut-être parce qu'on ne les écoute pas lorsqu'elles souffrent. Ces douleurs qu'on leur refuse, elles les matérialisent dans la barre de recherche. Au bout du compte, ce sont ces femmes plutôt que le corps médical qui m'ont donné le courage d'essayer de mieux vivre avec ma maladie en attendant qu'on lève le voile sur le SOPK. C'était SOPK, l'acronyme qui fait mal aux femmes, une chronique de Daphné B, parue le 24 mai 2023 dans le magazine Châtelaine.
Haïti. 4 idées reçues qui rendent la vie dure aux personnes LGBTI, un texte de Tara Lena Marucheka Saint-Hilaire, paru le 30 juin 2023 dans Loop Haïti. La communauté LGBTI, lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre, intersexuée, en Haïti, est confrontée à une réalité complexe et souvent discriminatoire. Outre les difficultés liées à l'acceptation sociale et à la reconnaissance de leurs droits fondamentaux, les membres de cette communauté doivent faire face à des idées reçues tenaces et des préjugés profondément enracinés dans l'imaginaire collectif haïtien. Une idée reçue, également connue sous le nom de préjugé ou de stéréotype, est une croyance ou une opinion généralement répandue, mais souvent basée sur des généralisations simplistes, des informations erronées ou des perceptions limitées. Les idées reçues peuvent se former lorsque les gens manquent d'expérience directe ou de connaissances approfondies sur un sujet spécifique. Elles peuvent être préjudiciables, car elles contribuent à la discrimination, à l'exclusion et à l'incompréhension. Dans le cas de la communauté LGBTI en Haïti, plusieurs idées reçues persistent et entravent le chemin vers l'égalité et la compréhension mutuelle. On vous en fait une liste ci-dessous. L'homosexualité est contre nature. Une idée reçue répandue est que l'homosexualité est contre nature, sous-entendant que cela va à l'encontre des lois de la biologie et de la reproduction. Cependant, il est important de souligner que les comportements homosexuels ne sont pas exclusivement observés chez les êtres humains, mais également chez de nombreux animaux. Des études scientifiques ont démontré que les comportements homosexuels existent dans le règne animal, remettant en question l'idée selon laquelle l'homosexualité serait contre nature. Des chercheurs ont observé des comportements homo-érotiques chez plus de 1500 espèces animales, allant des primates aux oiseaux, en passant par les poissons et les insectes. Ces comportements ne peuvent être attribués à des influences culturelles ou à des choix conscients, mais plutôt à des facteurs biologiques et évolutifs. Les animaux, comme les êtres humains, peuvent éprouver une attirance sexuelle envers les individus du même sexe sans que cela ait un impact sur leur capacité à se reproduire ou à contribuer à la survie de leur espèce. Les exemples abondent dans le règne animal. Par exemple, chez les bonobos, nos plus proches parents, dans le règne animal, les relations sexuelles entre individus du même sexe sont fréquentes et servent à renforcer les liens sociaux au sein du groupe. Chez les manchots, les couples de même sexe se forment pour élever des œufs abandonnés, contribuant ainsi à la survie de l'espèce. Ces comportements observés chez les animaux montrent que l'homosexualité est une réalité naturelle ancrée dans la diversité du règne animal. Par conséquent, l'idée reçue selon laquelle l'homosexualité est contre nature est infondée. Il est essentiel de se baser sur des preuves scientifiques et d'élargir notre compréhension de la sexualité dans le monde animal afin de remettre en question les préjugés et de promouvoir l'acceptation de la diversité sexuelle dans notre propre société. Biological Exuberance, Animal Homosexuality and Natural Diversity, de Bruce Beigemill, est un ouvrage qui explore les comportements homosexuels observés chez plus de 450 espèces animales différentes. L'auteur examine les preuves scientifiques et les implications évolutives de ces comportements. Les homosexuels sont des pédophiles. Il est essentiel de souligner que l'association entre l'homosexualité et la pédophilie est une idée fausse et préjudiciable. Cette idée reçue est souvent basée sur des généralisations erronées et des stéréotypes discriminatoires. Il est important de distinguer clairement l'orientation sexuelle d'une personne de ses comportements abusifs envers des enfants. L'orientation sexuelle n'a aucun lien avec la pédophilie, qui est une paraphilie caractérisée par une attirance sexuelle envers des enfants prépubères. La grande majorité des agressions sexuelles commises contre des enfants sont perpétrées par des personnes de sexe hétérosexuel et non par des homosexuels. De nombreuses études et organisations professionnelles ont conclu qu'il n'y avait aucune corrélation entre l'orientation sexuelle et la tendance à commettre des abus sexuels sur des enfants. Des associations de psychologues et de psychiatres, telles que l'American Psychological Association et l'American Psychiatric Association, ont déclaré à plusieurs reprises qu'il n'y avait aucune base scientifique pour soutenir cette association entre l'homosexualité et la pédophilie. Perpétuer cette idée reçue, dangereuse, contribue à la stigmatisation et à la discrimination envers les personnes homosexuelles qui sont déjà confrontées à de nombreux défis dans leur quête d'égalité et de respect. Il est essentiel de se baser sur des faits et des preuves scientifiques pour éliminer ces préjugés et promouvoir une compréhension plus juste et inclusive de la diversité des orientations sexuelles. Il est important aussi de souligner que la priorité absolue doit être la protection des enfants contre toute forme d'abus sexuels, indépendamment de l'orientation sexuelle des agresseurs potentiels. Les préjugés et la désinformation ne font qu'entraver les efforts visant à lutter efficacement contre la pédophilie et à garantir la sécurité et le bien-être des enfants. Les personnes LGBTI veulent détruire la famille. L'idée selon laquelle les personnes LGBTI cherchent à détruire la famille est infondée et résulte souvent de la méconnaissance et des préjugés. Cette idée reçue alimente la stigmatisation et la discrimination envers la communauté LGBTI, qui lutte simplement pour obtenir les mêmes droits et les mêmes protections que les autres membres de la société. Les personnes LGBTI ne cherchent pas à détruire la famille, mais plutôt à vivre leur vie en harmonie avec leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. Elles aspirent à fonder des familles, à aimer et à être aimées, tout comme n'importe quelle autre personne. Leur désir d'égalité ne menace en rien les familles existantes, mais vise plutôt à étendre les droits et les protections à toutes les formes de famille, quelles qu'elles soient. Les recherches et les études sociologiques montrent que les familles LGBTI peuvent être tout aussi stables, aimantes et bénéfiques pour les enfants que les familles hétérosexuelles. Les enfants élevés dans des familles LGBTI ne sont pas défavorisés par rapport aux autres et peuvent même bénéficier de l'ouverture d'esprit, de la diversité et de la tolérance inhérente à ces foyers. Par ailleurs, il est également utile de rappeler que la notion de famille évolue constamment dans la société. Les familles peuvent prendre différentes formes, qu'il s'agisse de familles monoparentales, recomposées, adoptives ou de familles LGBTI. La diversité des structures familiales ne nuit pas à l'institution de la famille, mais la renforce en reflétant la réalité de la société contemporaine. En conclusion, l'idée selon laquelle les personnes LGBTI veulent détruire la famille est une idée fausse et préjudiciable. Les personnes LGBTI aspirent simplement à vivre leur vie en tant que membres égaux de la société et à jouir des mêmes droits et des mêmes opportunités que les autres. L'inclusion et le respect de toutes les formes de famille contribuent à une société plus juste et plus harmonieuse pour tous. Les personnes homosexuelles aiment n'importe quelle personne du même sexe. L'idée selon laquelle les personnes homosexuelles aiment automatiquement n'importe quelle personne du même sexe est une généralisation erronée et simpliste. Elle réduit la complexité et la diversité des relations amoureuses et des attractions dans la communauté LGBTI. Comme dans toute orientation sexuelle, les personnes homosexuelles ont des préférences, des attirances et des critères personnels lorsqu'il s'agit de choisir un partenaire. Chaque individu a ses propres goûts, intérêts et valeurs qui influencent la formation de relations amoureuses et affectives. Les personnes homosexuelles recherchent des partenaires avec lesquels elles partagent une connexion émotionnelle, une compatibilité intellectuelle, des intérêts communs, des valeurs partagées et une attraction mutuelle. Elles recherchent des relations basées sur l'amour, le respect, la confiance et la compréhension, tout comme les personnes hétérosexuelles. Il est important de reconnaître que les relations au sein de la communauté LGBTI sont aussi variées et nuancées que dans toute autre communauté. Il n'y a pas de formule unique ou universelle pour les relations homosexuelles. Chaque individu a ses propres préférences et attirances, et les relations se forment sur la base de la chimie et de l'attraction mutuelle, tout comme dans les relations hétérosexuelles. Perpétuer l'idée selon laquelle les personnes homosexuelles aiment n'importe quelle personne du même sexe alimente les stéréotypes et la désinformation. Il est important de reconnaître la diversité des expériences et des préférences au sein de la communauté LGBTI et de respecter les relations amoureuses et affectives comme des choix personnels et individuels. Remettre en question les idées reçues et chercher à les comprendre de manière objective est essentiel pour favoriser une société plus inclusive et équitable. Cela implique d'écouter les expériences et les perspectives des personnes concernées, de se renseigner de manière fiable et de promouvoir le respect mutuel et la tolérance. La lutte contre les idées reçues sur la communauté LGBTI en Haïti est un processus essentiel pour favoriser l'inclusion, l'égalité et la compréhension mutuelle. En éduquant la population sur la réalité des personnes LGBTI, en encourageant le dialogue ouvert et en protégeant les droits fondamentaux de tous, Haïti peut avancer vers une société plus inclusive, où chaque individu est libre d'être lui-même sans crainte de discrimination ou de préjugés. C'était « Haïti, quatre idées reçues qui rendent la vie dure aux personnes LGBTI », un texte de Tara Lena Marucheka Saint-Hilaire, paru le 30 juin 2023 dans Loop Haïti.